personne.
Le parquet l'accuse d'avoir été à la tête de la plus grande opération de corruption de l'histoire du pays, avec des pertes pour l'État estimées à près de 40 millions d'euros. Alors que 12 ans de prison et l'inéligibilité à vie ont été requis contre elle.
Radio G. 101.5 FM.
Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie,
poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire sujante.
Je vais choisir un extrait du chapitre 9, intitulé.
Assise près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Peut-être le plus familier, mais aussi le plus énigmatique. Un timbre de voix est reconnaissable entre mille. Et tant que la voix existe, elle est inoubliable. Ryoko Sekiguchi, poétesse et écrivaine japonaise née à Tokyo en 1970, est depuis longtemps hantée par la question des voix. Peut-être précisément en raison de sa situation d'exilée, loin des siens, puisqu'elle vit à Paris depuis maintenant près de 20 ans. Ses expériences personnelles de perte d'êtres chers, ainsi que l'état de choc consécutif à la catastrophe nucléaire de Fukushima le 11 mars 2011, sont à l'origine de ce court texte intitulé « La voix sombre », paru en 2015 aux éditions POL. Un récit à la fois intime et universel, une réflexion à travers la voix sur l'absence, la mort, comme un besoin urgent et vital de faire un inventaire de tout ce qui laisse une trace des disparus.
Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime. Et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et m'aime et me comprend. Car elle me comprend, et mon cœur transparent pour elle seule, hélas, cesse d'être un problème. Pour elle seule, elle est moiteur de mon front blême. Elle seule laissait rafraîchir en pleurant. Est-elle brune?
La voix trouble la temporalité.
Je l'ignore son nom.
La voix trouble la temporalité parce qu'elle est condamnée à rester au présent pour toujours. La voix réelle, bien sûr, mais aussi la voix enregistrée qui, chaque fois qu'elle surgit, se produit inévitablement au présent. Il ne saurait en être autrement. Nous qui vivons au présent, nous ne pouvons pas réitérer le présent qui n'est plus, contrairement à la voix enregistrée. Ou plutôt, nous ne pouvons pas posséder ce présent qui nous est à chaque instant dérobé. Nous écoutons alors cette voix qui vit dans une autre temporalité. Dans le même monde, deux temporalités se croisent et nous sommes nous-mêmes à notre tour troublés. Cette voix existe-t-elle comme la trace d'une personne, la preuve de son existence ramenée au présent à jamais? Oui, comme toutes les traces d'une personne. Bien sûr, la voix n'est pas la personne qui, elle, ne reviendra plus. Mais la voix n'est pas non plus une partie de la personne dont on ramasserait des miettes de présent. Elle est l'incarnation du présent de la personne. Ce n'est pas la personne en tant que telle, c'est le présent de cette personne. Le présent de la personne qui jadis fut présente et qui demeure dans la forme d'une voix. Pourquoi faut-il toujours que la présence soit chérie et l'absence haïe? Pourquoi l'absence est-elle toujours si douloureuse? Pourquoi est-elle incapable de procurer aucune joie, comme si cette nature équivoque était inscrite en elle de tout temps, quand d'autres états provoquent en nous des sentiments si divers? Ou bien, le contraire de la présence ne serait pas l'absence, mais la disparition. Parce que la présence règne tant que dure la vie, tandis qu'après la mort d'un être, ce n'est pas l'absence, état statique, qui nous saisit, mais la disparition, perpétuellement renouvelée. Ce serait cela qui nous déchire et nous agresse, non un état, mais une action qui se répète à l'infini. Sans doute, l'absence a partie liée avec la présence, comme un état parmi d'autres provisoire et exceptionnel, ou qui devrait l'être, de la présence. Après la mort, chaque fois qu'on pense à la personne, et même lorsqu'on n'y pense pas, la disparition nous visite à son gré et nous fait revivre la perte. À chaque instant, le sabre de l'action disparaître s'abat pour trancher. Mais pour qu'une chose disparaisse, direz-vous, il faut qu'elle ait existé auparavant. Chaque fois que la disparition opère, elle doit s'exercer sur une instance de la présence. Sans quoi, il n'y aurait pas de disparition. Quand bien même la personne ne serait plus et que la présence ne serait plus possible. Or, justement, c'est à ce moment précis qu'intervient l'absence, qu'elle nous submerge comme un état d'origine et que de là, nous dévalons vers cet abîme plus profond encore qu'est la disparition. À mesure que le deuil s'accomplit, les attaques de la disparition se font moins violentes, mais l'absence demeure et s'installe pour toujours. L'absence, elle, ne disparaîtra pas.
De nos jours, les traces d'une personne sont principalement conservées dans la forme du support visuel. Même si la voix a sa part dans les vidéos, on pense rarement à la conserver seule, séparément des images. Désormais, mourir implique que le corps se réduit à tout ce qui est de l'ordre du virtuel. Avant l'invention de la photographie et des enregistrements audio, quand le corps disparaissait, il restait au vivant certains objets qui l'avaient accompagné et son odeur imprégnée sur ses vêtements. Et l'écriture, les traces des gestes de cette personne, si elle savait écrire. Et les portraits peints, pour ceux qui avaient les moyens. Et les cheveux. Autrefois, c'est l'odeur qui portait la trace d'une personne. Aujourd'hui, peu de gens se soucient de conserver l'odeur en souvenir d'un moment. Des flacons d'odeur de telle journée, de tel voyage en guise de photo souvenir. L'odeur de la maison à un moment de la journée qui évoque si bien l'atmosphère et tout ce qui compose un paysage sentimental peut-elle être conservée? L'odeur de ceux qui sont partis, qui la conserve? En définitive, dans nos sociétés, on est peu soucieux de conserver les traces directes du corps, odeur, cheveux ou écriture. ni les objets fabriqués, tricotés, brodés, façonnés par la personne, et encore moins la peau, le corps lui-même en forme de momie. Reste ce qui est sans corps, photographie et vidéo. Il fut un temps où l'on s'échangeait des mèches de cheveux en gage d'amitié. Conserver une partie du corps d'un ami n'avait rien d'anormal. Cette pratique a perduré jusqu'au XXe siècle. Mais aujourd'hui, on s'est retiré du territoire du corps pour entrer dans une zone sans odeur ni toucher, car les cheveux appellent le toucher. La voix est la seule partie du corps que l'on ne puisse pas enterrer. On peut enterrer les cordes vocales, pas la voix, les ondes enregistrées. Les photos sont des traces, mais la voix est bien une extension du corps. De la peau et des cheveux, on peut dire qu'ils sont plus proches du corps, plus concrets. On peut dire qu'ils sont le corps même. Ils n'empêchent, ils parlent moins de la personne que le corps. La voix, elle, peut parler des deux. Et le regard? Et l'odeur? Il arrive qu'on soit frappé longtemps après la mort d'un être par son regard saisi dans une photographie. C'est le présent qui surgit, l'espace d'un instant. Mais ce regard est vite rattrapé dans l'image, par le corps où il loge, un corps déterminé dans le temps. Exception faite de ces regards qui nous saisissent encore dans leur vivacité, les photographies sont soumises comme leur sujet à notre temporalité. Quant à l'odeur, elle associe généralement un ensemble d'éléments, ce n'est pas la trace de la personne exclusivement. L'odeur d'un vêtement mêlé de particules de lessive ou de parfum. Elle aussi, lorsqu'elle surgit, évoque le présent. Mais elle est trop éphémère. Et puis, nous ne savons pas conserver une odeur bien longtemps, à moins de recourir aux moyens spécifiques, une osmothèque par exemple. Comme des pétales de fleurs retrouvés dans un cercueil sur un site archéologique. Quand bien même l'odeur serait conservée, elle est pour ainsi dire inaccessible sans dommage. Elle menace de s'évanouir chaque fois qu'on la hume. La voix, elle, est intacte.
Distinguer la voix du regard. Le caractère de la voix est de toucher directement les tympans, c'est un fait. Le regard, lui, ne touche pas si fort qu'il nous frappe. C'est aussi vrai des vivants que des morts. À part la peau, par quoi nous pouvons toucher celle d'un autre, seule la voix est mise en forme d'onde, peut toucher directement nos tympans et chauffer nos oreilles. Deux territoires où le toucher peut exister. Leur nature propre reste inchangée, même après la mort. Les seuls organes encore capables de toucher après le départ d'une personne, on s'y accroche, comme à la dernière partie de cet être. Jean-Luc Nancy me dit « De mes amis écrivains ou philosophes, c'est du timbre de la voix, des petits gestes dont je me souviens, et non des livres. » Parce que ce qu'il y a dans le livre, c'est le travail de la personne, non la personne elle-même. Les textes passent, les écrits, qui comptent parmi les ouvrages les plus abstraits que les hommes produisent, sont capables de traverser les époques bien après la mort de leur auteur, sans être inquiétés par les vivants. Ils peuvent encore être lus et appréciés. Avec les écrits plus intimes, comme les correspondances et les lettres manuscrites, Le corps de ceux qui ne sont plus se manifeste plus fortement. C'est ce qui explique l'attrait pervers que suscitent les correspondances d'écrivains pour qui cherchent à retrouver leur voix. Pourtant, cela n'a rien à voir avec de vraies voix. Les vraies voix ont toutes les raisons de craindre les vivants qui cherchent à se débarrasser des morts. La voix nous visite, la voix nous déstabilise. Quiconque redoute ce passage et voudrait délimiter clairement les deux mondes cherchera avant tout à bannir les voix enregistrées, contrairement à ceux qui les recherchent désespérément.
La peur d'user. Dans les histoires de défunts se pose toujours la question de l'usure. On use la voix en l'écoutant trop souvent. On use l'apparition éphémère de la personne dans une photographie en la regardant tous les jours. On use la tristesse, on use la disparition. Et la disparition, même usée, finit par disparaître à son tour. L'usure est la seule façon de repousser la disparition. Reste le monde sans disparition, mais sans apparition non plus. Un monde morne règne de l'absence. Les gens ont peur d'user, ils ont peur d'user leur tristesse s'il s'agit d'un être aimé. Plutôt être assailli par le chagrin et la disparition que de se rendre au monde de l'oubli et de l'absence généralisée. Un ami garde une cassette audio contenant un enregistrement de la voix de son père décédé, mais l'écoute peu par crainte de l'user. D'autres conservent des recettes de cuisine réalisées jadis par leur grand-mère, mais les reproduisent rarement, de peur que ces plats, exceptionnels dans leurs souvenirs, ne déchoient au rang des plats ordinaires, ou que le résultat échoue à restituer le goût d'autrefois. Alors ce n'est pas tant le savoir-faire qui est en cause, c'est le temps écoulé depuis la mort de la cuisinière, tant qu'il a accompli son œuvre et modifié le goût des vivants, usés à leur tour. Pareils à la petite vendeuse d'allumettes, nous désirons à toute force provoquer l'apparition de ceux qui nous ont quittés. À cet effet, tous les supports sont bons, mais chaque fois qu'on y recourt, les allumettes dans la boîte diminuent. Et pour finir, il n'y a plus d'image du tout. D'une part, je voudrais que cette présence de la voix, cette apparition, existe pour toujours. D'autre part, je voudrais user cette apparition jusqu'au bout pour comprendre qu'elle est devenue abstraite désormais. Abstraite ? Non. La voix, comme je viens de l'écrire, est toujours concrète. C'est la source de la voix qui est soustraite au monde, tout comme je suis soustraite au monde dans lequel cette voix existait tout entière. On écoute cette voix toujours présente, qui est la présence même. Le choc initial est certes moins vif, mais passer l'impression d'usure, à peine quelques secondes, et le présent revient indélébile.
Une petite cantate du bout des doigts, obsédante et maladroite, monte vers toi. Une petite cantate comme nous jouions autrefois. Seule je la joue maladroite, si Milard est sans le dauphin. Cette petite cantate force le dauphin. N'était pas si maladroite quand c'était toi. Les notes couraient faciles, heureuses au bout de tes doigts. Moi j'étais la malhabile, si Milard est sans le dauphin. Mais tu es parti fragile vers l'au-delà. Et je reste malhabile face à le dauphin. Je te revois souriante, assise à ce piano-là, disant bon je joue, toi chante, chante, chante là pour moi. Si Milard et si sol do fa. Si Milard et si sol do fa. Oh mon ami, oh ma douce.
Il est étrange de dire du présent qu'il revient, comme s'il se trouvait quelque part, en un lieu qui n'est pas le présent. Ou bien on le voit comme une apparition du présent qui, en fait, serait toujours existant. On goûte le grain de la voix comme un oiseau picore ses graines, avec parcimonie, ou comme on lèche du miel sur ses doigts. Le grain de la voix équivaut au grain de beauté, aux rides, aux taches, aux muscles et au corps. Le teint de la peau, les articulations qui se déplient, les cils qui frémissent, les cheveux qu'on touche, le mouvement des lèvres qui articule cette voix. Le grain de la voix est le corps même de la voix, les membres de la voix. C'est ce qui fait qu'il est si difficile, même sans doute impossible à décrire. Le corps, lui, peut se laisser décrire. Le visuel s'accommode davantage de la description que la musique ou la voix, qui touche à l'indescriptible quand bien même elles sont les plus reconnaissables. Nous aussi, nous serons un jour une telle voix, audible, quoique détachée de son appareil qui est le corps. La pensée de la personne fait ressac, revient par à-coup, comme cherchant à la retenir, comme pour nous imposer de partager cette pensée, et ce faisant lui imposer à son tour de rester à notre côté. Il y a quelque chose de dévastateur dans le départ définitif d'une personne qui nous laisse dévastés. Ce n'est pas là une vue de l'esprit. Ce départ dégage en nous un territoire, un espace immense, fait de ruines et de désolation. Il faudrait quitter cet espace pour rejoindre le lieu où se trouve la personne, mais elle n'occupe plus aucun lieu, et les seules traces qui nous restent sont des objets, des photos ou sa voix, toujours au présent, dans un présent qui ne saurait plus être désormais que celui de ce monde dévasté. Le mot inoubliable. Tant que la voix existe, on ne peut pas l'oublier parce qu'elle relève de cette présence. Elle est inoubliable. Elle apparaît devant vous.
À l'écoute de la radio, on est dans l'intimité. On est plus proche de la conversation téléphonique qu'en regardant la télévision. La radio s'adresse à un public indéfini, mais la voix parvient à chaque auditeur individuellement. Ce n'est pas par hasard que les présentateurs de certaines émissions de radio conversent avec les auditeurs par téléphone. Il en a toujours été ainsi. Un emboîtement de transmission d'ondes vocales. Le présentateur s'adresse individuellement aux auditeurs alors qu'ils sont dans le même temps diffusés en public. La frontière entre les usages du téléphone et ceux de la radio a toujours été floue depuis la création de ce média. Si le téléphone occupe la sphère privée, la radio joue toujours aux franges de ces deux espaces, intime et public. Nous sommes à portée de voix. Parfois, on connaît les personnes qui sont dans le studio. Alors, les territoires du privé et du public se brouillent encore davantage. Un jour, j'ai été surprise par une voix émise à la radio. À l'oreille, elle m'apparaissait très intime. Je reconnaissais ce grain de voix, mais pendant un moment, j'étais incapable de l'identifier. En réalité, il s'agissait de la voix de Roger Chartier, dont il m'était arrivé de transcrire une conférence dans un cadre professionnel. Je ne l'avais rencontré qu'une fois en personne, mais en retranscrivant ses paroles, sa voix était passée à travers mes oreilles et à travers mes doigts, ce qui la rendait intime. Un soir, j'étais invité chez une amie, avec d'autres personnes que je ne connaissais pas. Je me suis retrouvé assise à côté d'un jeune homme que je n'avais jamais vu. Pourtant, sa voix me disait quelque chose. Il me semblait retrouver la voix d'un ami proche, avec cette étrange sensation de familiarité avec un inconnu. J'étais intrigué et presque gêné par cette double relation de nature incompatible que m'inspirait sa voix. En discutant avec lui, j'apprends qu'il est producteur d'une émission de radio. Comme je laissais souvent la radio allumée chez moi, les émissions de certaines tranches horaires, même si je ne les écoutais pas attentivement, m'étaient devenues familières. Je n'aurais jamais pensé qu'une voix écoutée distraitement pourrait à ce point s'immiscer dans mon intimité. Quand on vit de la littérature, il n'est pas rare de tomber par hasard sur une émission à laquelle participe une connaissance, ou à l'inverse, de faire la connaissance d'une personne dont on a précédemment entendu la voix à la radio. une rencontre en deux temps, en différé. Imaginer, c'est prendre d'une voix radiophonique. Ou bien, c'est prendre d'une personne qui laisse échapper sa voix à travers l'appareil radiophonique.
Bonne et heureuse année à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants.
Radioscopie,
Jacques Brel,
Jacques Chancel. Bonsoir et bienvenue au cœur de la nuit. Ce soir, nos invités nous gâtent pour cette période.
Eh oui, bonsoir à tous. Voici donc la 724e et dernière émission d'Apostrophe, la première.
Nous avions peur de tout, de rien, des autres, de nous-mêmes, de la nourriture à varier.
On va tout de suite commencer par Jean-Pierre Petit, donc 54 ans, directeur de recherche au CNRS. Il est ingénieur en aéronautique de formation.
Merci d'être avec nous, bonsoir à tous. C'est une émission spéciale que je vous propose ce soir. Si on lisait en musique.
La peur en héritage. Peur d'un monde forcément hostile, toujours menaçant et qui ne tient jamais ses promesses. Peur de la séparation, des disparitions, de l'indifférence comme de la curiosité des autres.
Sur nos tympans sont gravées les voix de certains êtres dont on aurait voulu ne jamais être séparés. À la manière d'une épitaphe ou d'un tatouage, elles sont inscrites sur notre corps. Gravé est le mot juste. Certaines voix ne nous quittent pas, font partie de nous, comme certains regards qui nous ont traversés. On ne les conserve pas simplement dans sa mémoire. On les conserve dans son corps, dans la chaleur de son corps, bien que je ne sache pas exactement où. Les voix, elles, ne viennent pas d'un ailleurs. Elles demeurent dans un lieu qui pourrait ressembler à un purgatoire, une sorte de salle d'attente, et elles surgissent. Il n'y a pas pour les voix de trajet à parcourir. Elles existent au présent en tant que telles. Plus je l'écoute, plus je suis gagnée par le trouble temporel. La voix reste au présent, mais ce présent, qui recueille des moments ayant appartenu à des points différents du temps, n'est pas le présent des vivants, instant sans cesse renouvelé. Le présent de cette voix est un présent amalgamé, un tas désorganisé qui, par nature, ne saurait être autrement qu'en désordre. C'est un présent qui n'existe pas dans le monde réel. Pourtant, c'est bel et bien dans le monde réel que j'écoute maintenant cette voix qui est cet amas de présents solidifiés. Traversé par la voix qu'il diffuse, le poste se met à vibrer. Quand on l'écoute sur ordinateur, l'appareil vibre et transmet une oscillation à peine perceptible aux doigts qui tapent dans le même temps sur le clavier. Est-ce la voix directement qui les touche? Et l'appareil, l'ordinateur dont la température s'élève imperceptiblement, est-ce son souffle qui le réchauffe? Comme par un matin froid avant les répétitions, on échauffe son instrument, il faut avoir les cordes vocales échauffées pour qu'une voix soit émise. Mais dans ce cas précis, c'est la voix dont la provenance a perdu toute chaleur qui réchauffe le poste de radio. Une hésitation dans la voix. Les moments de silence dans l'enregistrement, à quel temps appartiennent-ils? Ce silence, cette faille, nous ramène-t-il aux bornes étroites de notre présent à nous, rejetant le lieu propre de l'enregistrement dans le passé? À la fin d'un documentaire réunissant plusieurs témoignages, la voix de la présentatrice qui dit « Tous les enregistrements n'étaient pas diffusables. » J'imagine ces voix enregistrées et puis jetées, qui n'ont pas trouvé d'oreille pour les écouter.
Si nous pouvions enregistrer les conversations que nous avons eues au téléphone, à quelle temporalité appartiendraient nos voix? Le surgissement de la voix se produit au présent, mais s'il s'agit de la voix d'une personne vivante, retiendra-t-on son enregistrement du côté de la temporalité des vivants? Suite au décès d'Edouard Glissant, France Culture a organisé une journée d'hommage que j'ai écoutée du matin jusqu'au soir. Glissant jeune, Glissant à l'âge où je l'avais rencontré lors de lectures et conférences auxquelles j'avais assisté, j'entendais cette voix changer de tonalité bien qu'appartenant toujours à la même personne. Comme une succession d'images que l'on ferait défiler en accéléré. C'est toute la vie de la personne qui était retracée à travers ses émissions. Mais le soir venu, avec la dernière émission, une retransmission de la dernière lecture donnée par Glissant au Théâtre de l'Odéon, peu de temps avant sa mort, j'ai été frappée par son timbre, très différent de celui des autres périodes de sa vie. Sa voix disait « Le corps qui m'abrite va bientôt disparaître, je serai enregistrée et je me manifesterai aussi souvent que vous voudrez m'entendre, mais j'annoncerai perpétuellement la mort de cet être. Chaque fois, je dicterai le départ proche et irréversible du poète que je suis. » Cette voix était inscrite dans une double temporalité, celle de la voix proprement dite et celle du corps périssable qui l'hébergeait.
La voix des vivants ne se mêle pas à celle des morts, bien qu'elles soient au présent les unes comme les autres. La voix des vivants ne se fait pas entendre de ceux qui sont partis, puisqu'ils n'ont plus d'oreilles. La voix existe seule, juste pour être émise et rien d'autre. Existe-t-il un présent concret et un présent abstrait? Dans le temps qui demeure toujours insaisissable, nous glissons avec tout ce qui nous entoure, tandis que ces voix surgissent chaque fois à la pointe du présent. Peut-être cette différence de nature entre les deux présents est ce qui définit la vie et la mort. Lorsqu'à mon tour je basculerai dans l'au-delà, ma voix atteindra-t-elle enfin ce présent abstrait pour se mêler à celle que j'écoute à présent, cette voix délaissée par son corps? Et toutes les voix qui n'ont pas été enregistrées, demeurent-elles encore dans l'air, changées en ondes évanescentes, quoique incapables d'atteindre les oreilles des vivants?
Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, no más se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando.
Lorsque j'entends contre mes tympans les phrases que mon grand-père répétait sans cesse, de quel temps proviennent-elles? Ce corps m'ayant quitté, sa voix ne m'accompagne plus dans la vie. Elle ne connaît pas celle que je suis devenue d'une dizaine d'années plus âgée. Une partie de ma vie lui restera à jamais inaccessible, elle qui vit dans le monde dont je suis soustraite. Où résidera l'écart entre nous, entre cette voix non enregistrée et moi? La voix, pour venir me chercher, ne risque-t-elle pas de s'égarer en chemin? Ou bien ces voix demeurent-elles là où elles ont été émises, dans l'air? Est-ce la raison pour laquelle, partout dans la ville de Tokyo, chaque fois que je traverse un quartier que nous avons fréquenté, où nos dialogues ont été prononcés, je crois entendre sa voix? Cette voix est-il permis au moins de la rêver? Ce n'est pas la voix enregistrée que j'écoute à longueur de journée, mais une autre voix de la même personne que je désire aussi. La voix me touche.
Le présent de la personne que j'ai connue et que je n'ai pas connue fait son apparition devant moi. Le présent de la personne, même de l'époque où je ne la connaissais pas encore, peut aussi me toucher. Elle me touche, même si je ne peux plus toucher la personne. La voix touche mon tympan et je la touche avec mes oreilles. Ainsi, je la rencontre. Après le départ de la personne, je fais cette rencontre au présent. Je rencontre la personne sur une durée plus étendue que je ne l'ai connue dans la temporalité limitée de notre vie. Je descends dans la rue. Les ondes qui vibraient contre mes tympans continuent d'osciller. Comme après avoir mis pied à terre du bateau, on continue de tanguer. Entendrai-je sa voix de l'enfance dans les ruelles de la cité où elle a vécu? Avec l'écho des pierres et les murs étroits sur les deux côtés? Les ondes maintenant devenues fantômes me visitent. La présence de la voix en me quittant me revisite comme fantôme, même quand je ne l'écoute pas en vrai. Le cri joyeux d'un enfant, les petits pieds courant sur les dalles. Dans l'interstice entre la lumière et les ombres dans ce quartier construit sur une pente. Je ne le vois pas, je l'entends seulement. Je veux l'entendre, je veux aller au lieu où je pourrais l'entendre. L'enfant que je n'ai pas connu, la voix que je n'ai pas connue, ni en vrai, ni en forme d'enregistrement. Le rire qui éclate comme des bulles dans l'air du petit matin. Le fantôme de la voix me caresse. Dans l'absence, dans la disparition qui scande et cadence le fantôme des ondes, la voix tremble. Elle murmure même. Elle restera présente, fera son apparition, même après ma mort, même après la mort de tous ceux qui l'ont connue, pareil à une momie. La voix est toujours présente. Elle ne connaît pas la mort. Tant que la voix existe. Le surgissement partiel et cruel d'une personne qui n'est plus. De sa vie restera une onde.
Mélocotone et boule d'or, deux gosses dans un jardin. Qu'on saura parler comme ça. J'en sais rien. Viens de moi la main.
Pour nous qui enregistrons des textes, peut-être afin que notre voix ne sombre trop rapidement dans les ombres. Pour Astrid, qui écoute à nos voix en démêlant les fils usés et ceux de vie, en les faisant courir juste vers le sens. Pour les voix des disparus mais non oubliées de nos vies, le texte de Ryoko Sekiguchi résonne fortement. Ryoko Sekiguchi a su dire ce que nous pressentons de l'importance d'un timbre de voix, celle qu'on entend au répondeur d'un téléphone, celle que nous gardons en mémoire ressuscitée au gré des anecdotes racontées en famille, en compulsant de vieilles photographies, en faisant la recette d'une grand-mère. Prémonitoire, son texte commence par ces mots « Le monde s'assombrit ». C'est ce que nous avons ressenti après les événements du 13 novembre. C'est pourquoi il est urgent de recourir à la voix toujours présente, même quand son locuteur n'est plus, puisque, ainsi que le dit Ryoko Sekiguchi, la voix est toujours concrète. Vous n'avez pas entendu la voix d'Yvon, mais on vous assure qu'il est bien là, présent à la technique, pour que vous parviennent aujourd'hui les voix d'Anne, Dominique et Marie qui ont lu pour vous ces quelques extraits. Lors des intermèdes musicaux, vous avez pu entendre Sarah Vaughan, Léo Ferré, Sandrine Piau, Colette Magny, ainsi que les voix de quelques présentateurs d'émissions radiophoniques ou télévisuelles que vous aurez sûrement reconnues. Enfin, si vous souhaitez entendre réellement la voix de Ryoko Sekiguchi, nous vous recommandons d'écouter en podcast la belle émission de France Inter « L'humeur vagabonde » consacrée à cet auteur.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission,
en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre. Rendez-vous sur le site de Radio G